Bonjour à tous, il est 7h à Bangui, même heure à Ndélé. Nous vous invitons donc à suivre le journal de ce matin avec Parfait Teddy Comessé. Teddy, bonjour.
Bonjour Marcel Makula, bonjour à tous. L'avant-projet de loi portant fonctionnement et organisation de la chambre de chefferie est soumis depuis hier à la validation des acteurs ciblés. L'ouverture des travaux a été faite par le chef de l'État Foster Konje Touadéra. À Ngeringu, localité située à 30 km de Bangui, axe d'Amara, le système éducatif fait face à de nombreux défis. L'unique école publique dispose d'un seul bâtiment pour plus de 600 élèves. La MINUSCA appuie les détenus de la maison d'arrêt de Bria dans la Haute-Coteau. L'institution leur a remis la semaine dernière un poulailler pour la production des œufs et des poussins. Football à l'international, Rodrigo Hernandez Cascante, dit Rodri, est sacré ballon d'or 2024. L'Espagnol de 28 ans remporte pour la première fois ce trophée à Paris en France.
À la une, le président de la République, Faustin Konje Touadéra, a ouvert hier à Bangui les travaux d'amendement et de validation de l'avant-projet de loi portant fonctionnement de la Chambre de chefferie.
La Chambre de chefferie est une nouvelle institution inscrite dans la Constitution du 30 août 2023. Armand de Yanguindi nous fait le point.
Cet avant-projet de loi de 16 pages définit l'organisation de la Chambre nationale de la chefferie traditionnelle. Il comprend une assemblée plénière, un bureau exécutif et des chambres régionales des chefs traditionnels. Le bureau exécutif est dirigé par un président assisté de ses dévis, un rapporteur général et son adjoint. Faustin Archange Touadéra, président de la République, dévoile ici quelques missions assignées à la Chambre de la chefferie traditionnelle centrafricaine.
La chefferie traditionnelle participe dans les conditions déterminées par la loi, aux efforts de développement harmonieux de toutes les régions de la République. Elle est chargée notamment de la valorisation des us et coutumes, de la promotion des idéaux de paix, du développement et de la cohésion sociale et du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés.
Cet avant-projet de loi a bénéficié de l'appui technique et financier de l'ONU-FAM. Novella Rukwugize, chef de programme de cette agence des Nations Unies, revient ici sur l'appui de son institution gouvernement dans ce programme.
Nous sommes convaincus que la validation de l'avant-projet de loi et les étapes qui vont suivre appuieront ces efforts en République centrafricaine où le rôle des chefs traditionnels peut permettre d'endiguer bien des défis tels que les violences sexuelles et basées sur le genre qui gardent une ampleur pandémique malgré les efforts menés par le gouvernement et ses partenaires pour y faire face. Ce projet de loi intègre également les principes des droits humains, en particulier ceux des femmes, pour lutter efficacement contre toute forme de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles.
Après la validation ce mercredi par le gouverneur, préfet, chef de groupe et chef traditionnel, ce document sera soumis à l'appréciation du Parlement centrafricain avant la promulgation par le président de la République.
Merci à vous Armando Yanguindi pour toutes ces précisions.
En prélude aux élections locales du 13 juillet prochain, des acteurs électoraux centrafricains ont été sensibilisés hier sur le code électoral.
Il s'agit entre autres des représentants des partis politiques, des leaders des organisations de la société civile et des autorités locales. L'implication et la participation des femmes au processus ainsi que les critères d'éligibilité ont aussi fait l'objet des échanges. Une initiative du ministère de l'administration du territoire. Clotaire Loutomo, directeur général du développement local au dit ministère, revient sur l'importance de cette activité. Il est au micro de Ida Lotindiko.
Aujourd'hui, le ministère de l'administration du territoire dispose d'un document de politique sur la décentralisation et le développement territorial. Ce document de politique est remis officiellement au président de la République. Il ne reste qu'à mobiliser les ressources. Alors, si déjà le cadre juridique en ce qui concerne la décentralisation existe, mais l'épine dorsale même de ce document, c'est l'organisation des élections municipales. Aujourd'hui, le gouvernement s'engage à mettre un terme aux délégations spéciales qui ne disposent pas de légitimité. Et donc, lorsqu'on va organiser les élections municipales, c'est une opportunité qui sera offerte à la population de choisir ses représentants en vue de bien gérer ses patrimoines. Et donc, c'est des opportunités, c'est des pouvoirs et compétences que l'État aujourd'hui a transféré à ses collectivités territoriales. Mais pour la mise en œuvre de tout ce que je viens de dire, il faut organiser les élections municipales pour permettre à la population d'élire au mieux ses représentants. Et d'où nécessité de vulgariser le contenu du code électoral et de mieux sensibiliser ces acteurs-là sur les enjeux et les défis pour une meilleure organisation des élections municipales et régionales à venir.
Le gouvernement annonce la célébration différée de la journée mondiale de l'alimentation à Kagabandoro dans la Nanagrébizi.
Selon son porte-parole Maxime Balalou, ces festivités auront lieu avant le 15 novembre prochain. Une mission de prospection pour les préparatifs a été faite la semaine dernière. Il a dit hier lors de la conférence de presse hebdomadaire qu'il a animée. Maxime Balalou est au micro de Christ Roy Jordan Badingui.
Vous savez, la pluie a beaucoup perturbé le programme. Il faut que je vous le dise. Ce qui est à la base des décalages, c'est la pluie. Et surtout les infrastructures et autres qui sont en train d'être reconstruites et autres. Les routes également, la pluie. Mais les choses avancent très bien. Il y a une mission qui est envoyée par le gouvernement. Il y a 3 ministres qui sont sur le terrain. Mais notre souhait, c'est quoi? Notre souhait, c'est que la Jima se tienne. Parce que Kagabandoro est une ville martyre. Je vous ai dit qu'il y a 3 ministres qui sont arrivés. C'est hier soir. Ils sont allés vérifier, n'est-ce pas, tout ce qui a été fait, et puis ils vont nous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la première quinzaine de novembre, là, ça c'est certain, la Jima sera organisée.
C'était le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement Maxime Balalou. La journée mondiale de l'alimentation est célébrée le 16 octobre de chaque année.
Éducation, dans ce journal, l'école primaire de Ngrengo à 30 km de Bangui sur la route de Damara a du mal à donner une bonne éducation à ses élèves.
Oui, l'établissement ne dispose que d'un seul bâtiment, de 3 salles de classe et 2 enseignants pour 600 élèves. Christ Roy Jordan Badingui.
Les problèmes de l'école primaire de Ngirengou sont visibles dès notre arrivée. L'établissement se résume seulement à un bâtiment de 3 salles de classe et un bureau. Pour contourner ces problèmes, la direction se voit obligée de réunir 2 sections dans une salle de classe. Nous sommes dans la salle où sont réunis les élèves du CI et CP. Plus de 200 élèves sont assis à même le sol pour suivre les cours. Priscilla Eleonore Bondadier est en charge de cette section.
Si c'était juste une section, je pourrais sillonner pour bien contrôler les élèves. Mais avec ce nombre, ces mouvements dans la salle sont limités. On devrait montrer aux nouveaux élèves comment écrire les syllabes. Hélas, les conditions ne nous permettent pas de leur enseigner ces syllabes.
Les 4 autres sections du CI au CM2 sont à la charge du directeur de l'école, Joly Delphine Bingimale. Selon lui, l'effectif dépasse plus de 600 élèves, mais certains parents retardataires continuent de venir inscrire leurs enfants.
Je ne cesse d'informer toutes les autorités qui arrivent au sein de mon école pour leur présenter la situation de l'école Guérengou. Mais la réponse tarde à venir. Mon seul souci, l'école Guérengou doit avoir au moins un bâtiment ou 2 bâtiments de 6 salles de classe. Là, on va répartir les élèves.
Un autre problème de cette école est le manque d'eau potable. Lydie Edwige Gazayolo, membre de l'association des parents d'élèves de l'école Ngirengou, appelle à l'aide.
On dit souvent que l'eau, c'est la vie. Mais il n'y a pas d'eau potable ici malgré l'effectif des enfants. Les élèves boivent souvent l'eau du puits. Mais quand il pleut, l'eau devient non potable. Et les enfants tombent souvent malades à cause de cette situation. Nous demandons aux partenaires de construire un forage au sein de l'école.
L'école primaire de Ngirengo a été créée en 1970. En 54 ans d'existence, cet établissement d'enseignement public peine à avoir tout son confort pour l'éducation des enfants. Christophe Jordan Badengue de retour de Ngirengo, Radio Ndekeluka.
À Bria, dans la Koto, la maison carcérale est dotée d'un poulailler. La remise officielle aux autorités judiciaires a eu lieu la semaine dernière.
Construit et équipé par la MINUSCA à travers la section justice, ce poulailler permettra de produire sur place des œufs et des poussins destinés à la vente. Les détenus pourront aussi en consommer. Le point avec Gasmala Mustapha.
Ce poulailler, construit dans l'enceinte de la maison carcérale, est équipé d'un incubateur, d'un château d'eau qui fonctionne à base d'un puits et plusieurs autres matériels indispensables. Luc Sogozena, conseiller pénitentiaire, représentant de la chef de l'unité des affaires pénitentiaires de la MINUSCA, parle de cette réalisation.
Ce qui est visé derrière cela, c'est d'abord de pouvoir aider les détenus. Pour les besoins de la pérennisation du projet, il y a une partie donc de la production qui devra être vendue, qui va générer des ressources. Une partie de cette production se devra servir donc à l'alimentation des détenus.
Alfred Ndakala, directeur général au service pénitentiaire, juge très important la réalisation de ce projet.
Mettre ce remerciement à nos partenaires qui nous ont construit cette ferme avicole. Cette ferme va d'abord profiter à la population parce que c'est destiné à la vente. Lorsqu'il y a des difficultés pour pourvoir à l'alimentation des détenus, on peut prélever sur les recettes pour donner à manger à ces détenus.
Pour le moment, dans ce poulailler, on compte plus de 250 pondus vendeuses et poulets de chair appelés poulets Brahma qui sont produits sur place. Le coût de construction de cette ferme avicole et de tout son contenu s'élève à environ 30 millions de francs CFA. Guy Sylvain Guérébia-Dengba, directeur de la maison d'arrêt de Bria, explique les techniques de gestion de ce poulailler.
Il y a un comité qui veillera sur la gestion de ce poulailler-là. Tout ce que nous faisons ici, nous visons la réinsertion sociale des détenus. Avant qu'on ne puisse implanter le poulailler, les détenus au nombre de 24 ont subi une formation. C'est eux qui ont entretenu les poulets, on leur a donné à manger, ils les ont soignés jusqu'à ce que vous voyez maintenant.
Les responsables de l'établissement pénitentiaire de Bria souhaitent d'autres appuis pour la réalisation de certains projets tels que le jardinage, la boulangerie, la clôture de la maison d'arrêt et l'implantation d'une infirmerie. Bria, Gasmala Mustapha, Radio Ndekeluka.
Actualité hors de nos frontières au Tchad, le président Mahamat Idrissé Déby Itno annonce une contre-offensive de l'armée sur le groupe Boko Haram.
Cette contre-offensive intervient après la mort d'une quarantaine de militaires tchadiens tués dans une attaque des djihadistes de Boko Haram selon des sources locales. L'assaut a eu lieu avant-hier dans la région du lac Tchad à la frontière du Nigeria. Le président tchadien s'est rendu hier sur place où il a annoncé le lancement d'une opération militaire afin, selon lui, de poursuivre et traquer les assaillants jusque dans leur dernier retranchement.
En sport, au football à l'international, le Ballon d'Or 2024 est décerné à Rodrigo Hernandez Cascante di Rodri.
La remise de ce prestigieux trophée a eu lieu hier à Paris en France. L'Espagnol de 28 ans, milieu du terrain de Manchester City, succède ainsi à l'Argentin Lionel Messi. Rodri, meilleur joueur de l'Euro 2024, champion d'Angleterre, devance au classement Vinicius Junior, Jude Bellingham et Dani Carvajal. Tous des joueurs du Real Madrid. Mais le Ballon d'Or décerné à Rodri a suscité des vives critiques que chez plusieurs internautes. Pour ces derniers, Vinicius Junior méritait ce sacre. D'ailleurs, son club a boycotté la cérémonie puisqu'aucun représentant du Real Madrid n'était présent à la cérémonie d'hier, même si le coach du club Carlo Ancelotti est élu meilleur entraîneur de l'année. L'Argentin Emiliano Martinez du club Aston Villa, déjà sacré en 2023, conserve le trophée de Yacine du meilleur gardien. Âgé de 17 ans, Lamine Yamal du FC Barcelone remporte le trophée du meilleur jeune joueur. Chez les dames, l'Espagnol Alintana Bonmati du FC Barcelone remporte pour la deuxième année consécutive le Ballon d'Or féminin 2024.
Au football encore, Erik ten Hag n'est plus entraîneur de Manchester United.
Le technicien néerlandais a été limogé hier après deux années qu'il a passé au sein du club, notant que Manchester United est 14e du championnat anglais après neuf journées.
Changeant de discipline pour parler de basketball, Ride to Ball, le club Abeille a joué son deuxième match hier.
Après sa mauvaise entrée dans ce tournoi, le club Abeille champion de la RCA a battu hier Mwanda du Gabon 75-71. Aujourd'hui à 19h pour son deuxième match, Abeille va jouer contre King Arika de la Guinée équatoriale.
Autre actualité sportive, la Fédération centrafricaine de triathlon a tenu le week-end dernier son assemblée générale élective.
L'ancien bureau a été reconduit pour un mandat de 5 ans. Cette équipe compte sur une meilleure préparation des athlètes pour les prochaines compétitions. Blacker Sandy, président de la Fédération centrafricaine de triathlon, avec Martial Sevmitisinga.
Ça rentre dans le cadre de la continuité du travail que nous avons fait et je pense que ça me donne encore plus de pression afin d'atteindre, n'est-ce pas, les objectifs que l'Assemblée générale s'est fixée pour la vie de la Fédération jusqu'en 2028. Nous avons décidé de laisser le duathlon de côté pour nous concentrer au triathlon. Notre objectif aujourd'hui, à long terme, c'est de pouvoir préparer les athlètes à être qualifiés pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Ça, c'est à long terme. Et à très court terme, nous allons accueillir l'année prochaine le championnat d'Afrique zone 2, zone 4. Donc, ce qui fait que nous avons une grosse pression sur nous. Cette compétition est de haute facture. Donc, il revient à nous de pouvoir préparer nos athlètes pour que nos athlètes soient à la hauteur et à la dimension de nos ambitions.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir écouté.